Radio Vatican, Français Afrique.
Bienvenue à mes auditeurs et merci de nous accueillir chez vous. Outre la revue de ce qui ont été les principales activités du pape au cours de la semaine, l'actualité de l'Église nous conduira en Côte d'Ivoire, au Bénin, en République démocratique du Congo. En ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous verrons ce qui se passe au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, entre autres. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
C'est avec la semaine du pape que nous ouvrons l'actualité de l'Église. Camille Moukoso.
Le pape a reçu tour à tour en audience privée samedi le cardinal Marco Ellé, préfet de la Congrégation pour les évêques, Monseigneur Giuseppe Piemontese, évêque des Terni Narni Amelia en Italie, Monseigneur Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie. Vendredi, le Saint-Père avait adressé une lettre de condoléances à l'archevêque de Kuala Lumpur en Malaisie, Monseigneur Julien Ben Kim, à l'annonce du décès du cardinal Anthony Soster Fernandez, premier cardinal malaisien. À la suite de l'attentat commis jeudi matin dans la cathédrale Notre-Dame de Nice en France, le Saint-Père, informé de la situation, a envoyé un message de condoléances à l'évêque de la ville, Monseigneur André Morceau, et a exhorté le peuple français à l'unité. Mercredi, au cours de l'audience générale qu'il a tenue dans la salle Paul VI, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, abordant cette fois-ci la première prière de Jésus sur les bords du Jourdain lors de son baptême par Jean-Baptiste. François a fait remarquer que le Christ n'est pas descendu dans les eaux du Jourdain pour lui-même, mais pour nous tous. Il a ouvert le ciel comme Moïse avait ouvert les eaux de la mer Rouge pour que nous puissions tous passer derrière lui. À l'issue de l'audience, François a lancé un appel de solidarité et de soutien aux familles de jeunes étudiants tués samedi dernier à Kumba au Cameroun. Cet acte si cruel et insensé qui a arraché des enfants innocents à la vie alors qu'ils suivaient les leçons à l'école, mais déconcerte totalement, a indiqué le pape. Mardi, en recevant en audience privée, Monseigneur Marcello Semeraro, le nouveau préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le pape a autorisé la publication des 7 décrets concernant le futur saint et bienheureux. Toujours mardi, le Saint-Père a adressé une lettre au secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, à l'occasion d'un triple anniversaire. Il s'agit du 40e anniversaire de la Commission de l'Épiscopat de l'Union européenne, du 50e anniversaire de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Union européenne, et enfin du 50e anniversaire de la présence du Saint-Siège en tant qu'observateur permanent auprès du Conseil de l'Europe. À l'occasion de la commémoration des fidèles de faim le 2 novembre prochain, le Saint-Père célébrera une messe dans les cimetières tétoniques du Vatican et se rendra à la crypte de la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage au souverain pontife décédé. Par ailleurs, le jeudi 5 novembre prochain à 11h, à l'hôtel de la Chaire dans la basilique Saint-Pierre, François célébrera la messe de suffrage pour les cardinaux et les évêques décédés au cours de l'année écoulée. Et pour ce qui est de l'ensemble des célébrations des prochains mois, probablement aussi pour le temps de l'Avent et de Noël, François célébrera le principal temps liturgique avec une participation très limitée des fidèles dans le plein respect de mesures sanitaires dues à la COVID-19.
Les guides religieux musulmans et chrétiens réunis au sein de l'Alliance des religions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire ont rendu public le 30 octobre dernier, à la veille donc de l'élection présidentielle, une déclaration dans laquelle ils disent prendre à témoin l'opinion nationale et internationale du constat qu'ils ont pu se faire au terme de leur consultation avec les acteurs politiques ivoiriens dans le cadre d'un processus électoral dans le but d'éviter au pays une nouvelle crise post électorale. La déclaration a été lue dans la mosquée d'Abidjan Cocody Riviera Golf par le père Émile Quélignon, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale ivoirienne. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan.
À l'issue de ces différentes rencontres, la classe religieuse, tout en prenant la presse nationale et internationale à témoin, retient de ses interlocuteurs la volonté de régler leurs différends par le dialogue inter-ivoirien. Note que chaque leader politique, en prenant les religieux à témoin, a fait le point des bonnes actions de son camp en faveur du dialogue, en rendant le camp adverse responsable des difficultés ou blocages constatés. Toutefois, tous, sans exception, poursuivent-ils, se sont engagés à contribuer à la culture du vivre ensemble de nos populations, nonobstant les différences culturelles, politiques et religieuses de celles-ci, font-ils observer dans ce message. Faire amer constater au terme de tous ces balais diplomatiques font savoir les religieux comme en 95, les acteurs politiques ivoiriens ont divisé la patrie de la vraie fraternité d'un côté, les partisans de la tenue du scrutin à la date constitutionnelle et de l'autre, ceux qui souhaitent le report de l'élection présidentielle et qui exigent que toutes les conditions d'un vote crédible soient remplies, précise-t-il. Les religieux indiquent dans cette déclaration avoir joué leur partition dans la recherche de la paix en donnant de la voix dans les médias confessionnels puis en sensibilisant la non-violence par le biais des panneaux d'affichage. Pour conclure leur message, les religieux chrétiens et musulmans ont tenu à exhorter les populations en général et particulièrement la jeunesse à proscrire de leur militantisme politique la violence sous toutes ses formes, tout en marquant leur disposition de jour comme de nuit à toujours accompagner les Ivoiriens, à ne jamais oublier l'enjeu, la Côte d'Ivoire font-ils remarquer. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Au Togo, les évêques de ces pays ont fait eux aussi une déclaration à l'issue de leur session ordinaire en rapport avec l'ouverture des lieux de culte. Reportage.
Entre autres déclarations rendues publiques vendredi 23 octobre à l'issue de leur session ordinaire tenue à Accra du 19 au 23 octobre 2020, les évêques du Togo ont exhorté les autorités du pays à autoriser l'ouverture totale des lieux de culte. Convaincus qu'il nous faut désormais vivre pendant un certain temps avec la COVID-19 et au regard de la reprise progressive des activités dans tous les secteurs de la vie sociale, notamment les écoles, les services, les marchés, les lieux d'accueil et de restauration, ont affirmé les évêques du Togo, nous jugeons opportun que toutes les églises et autres lieux de culte soient eux aussi ouverts aux fidèles dans le respect des dispositions de prévention. À cette déclaration, les évêques ont ajouté qu'ils espèrent que cette préoccupation sera prise en compte par ceux à qui cela revient. Quant à la situation sociopolitique du pays, les évêques du Togo ont rappelé que la paix sociale, la justice, la démocratie, l'alternance tant souhaitée ne seront effectives que si chacun accueille l'appel de Dieu à la conversion et s'engage résolument au service du bien commun, de la vérité et du droit. Gustave Wam, Dapon pour Radio Vatican.
Notre correspondant en République démocratique du Congo nous fait écho de la consécration des 4 membres de l'Ordre des Vierges.
Le vendredi 30 octobre, dans l'église paroissiale Notre-Dame d'Afrique de Kinshasa-Lemba, Mgr Edouard Kisonga, vicaire général et l'un des 4 évêques auxiliaires de Kinshasa, a consacré à Dieu 4 membres de l'Ordre des Vierges. Antoinette Doussabé, Ernestine Kalita, Pascaline Ngakwa et Véronique Nzekeve. Elles ont professé leur décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ dans le service de l'Église.
Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration.
Après la messe, Mgr Kisonga a expliqué.
Vatican II a renouvelé ça, qu'il y a des laïcs qui peuvent se consacrer au Seigneur, à son service et au service du peuple. Ça vient de commencer, c'est la deuxième année. Ils ne vivent pas en communauté. Ils vivent de leur travail, mais ils ont les rencontres, tout ça. Et ils n'ont pas d'uniforme. Mais le jour de la consécration, ils mettent ces voiles-là.
Et le père capucin Romain Wayawaya, délégué par l'archevêque Fridolin Mbongo, a promis de faire connaître davantage l'ordre des vierges consacrées.
Ici, ce n'est pas une vie religieuse, c'est une consécration des femmes qui ont accepté par vocation de servir l'Église en acceptant de rester fidèles au Christ et sans s'engager dans un mariage.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les quelques 7,5 millions d'électeurs ivoiriens ont commencé samedi à voter pour une élection où le président sortant Alassane Ouattara brigue un troisième mandat. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a voté en fin de matinée à Cocody, quartier chic d'Abidjan, a appelé les opposants à cesser la désobéissance civile alors que les incidents se multiplient, surtout dans les fiefs de l'opposition, dans une ambiance tendue. L'opposition tanzanienne a appelé samedi ses partisans à descendre dans la rue pour contester la réélection du président John Magufuli et la victoire sans partage aux législatives de son parti et obtenir l'organisation d'un nouveau vote, jugeant le premier frauduleux. L'opposition a également appelé les organisations régionales et internationales et les pays étrangers à ne pas reconnaître les résultats de ces élections et à prendre des sanctions contre le gouvernement de Magufuli. Dossier élection toujours. La campagne pour l'élection présidentielle au Burkina Faso a débuté samedi à 3 semaines du scrutin qui opposera les sortants Roch Marc Christian Kabore à 12 autres postulants. Vendredi soir, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Barry, a notamment rappelé l'interdiction des pratiques publicitaires à caractère politique, des cadeaux et des libéralités pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote des électeurs. L'Agence adventiste d'aide et de développement, une organisation humanitaire confessionnelle, a indiqué samedi que 4 personnes, dont 2 travailleurs humanitaires, un Burundais et un fournisseur, avaient été enlevés dans la région de Fizi, dans l'est de la République démocratique du Congo, par des hommes armés qui exigent une importante rançon. Des hommes armés leur ont tendu une embuscade en tirant des coups de feu et exigeant du véhicule qu'ils s'arrêtent. L'incident a eu lieu vendredi après-midi dans la localité de Mutambala, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Les ravisseurs exigent une somme de $50,000 pour libérer les otages, a indiqué de son côté Mutarwa Mlendela, l'un des responsables de la société civile de Baraka.
Radio Vatican, Français-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le gouvernement sénégalais a mis en doute vendredi le bilan fourni par l'Organisation internationale pour les migrations à la suite d'un naufrage qui aurait entraîné la mort de 140 personnes au début de semaine, estimant cette information infondée. Les services compétents de l'État ont récupéré 6 corps sans vie repêchés par un navire de pêche privé, précise le ministère sénégalais de l'Intérieur, qui rappelle par ailleurs que les services de secours ont sauvé respectivement 51 et 40 personnes lors d'accidents en mer intervenus le 22 octobre dernier et dans la nuit du 25 au 26 octobre. L'épouse du président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Madame Auxilia et leur fils Collins ont été cités comme les propriétaires présumés d'une quantité d'or retrouvée dans le bagage d'Henrietta Rushaya, arrêtée lundi dans le principal aéroport d'Harare. Madame Rushaya, qui dirige la Zimbabwe Miners Federation, et 6 autres personnes sont inculpées dans cette affaire. 2 agents du renseignement auraient permis la dirigeante d'échapper au contrôle de sécurité en faisant passer ses bagages par la voie réservée aux diplomates. L'otage américain enlevé cette semaine au Niger, près de la frontière du Nigeria, a été libéré grâce à une intervention des forces américaines dans le nord du Nigeria, a annoncé samedi le Pentagone. Le père Antoine Kerouel, secrétaire général de la Compagnie de Jésus, nous introduit à la méditation avec les textes de la fête de Toussaint en ce 31e dimanche du temps ordinaire.
Aujourd'hui, 1er novembre, nous honorons tous les saints, c'est-à-dire tous les hommes, les femmes et les enfants, dont l'Église a pu et su reconnaître un attachement au Christ si fort que, sans doute possible, ils participent pleinement à la vie reçue de Dieu. Ces personnes ont été officiellement proclamées saintes, mais nous savons que, au sein de la communauté chrétienne, d'autres personnes, qui demeurent inconnues du grand public, peuvent, elles aussi, être des modèles pour nous. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Tiré du livre de l'Apocalypse, la première lecture dresse un tableau splendide et solennel de la gloire des élus, issus de toutes les nations, races, peuples et langues de la terre. Tiré de la première lettre de Saint Jean, la deuxième lecture rappelle avec une grande sobriété notre dignité d'enfant de Dieu, tout en précisant que cette dignité sera pleinement accomplie lorsque nous verrons le Fils de Dieu tel qu'il est. Nous serons alors semblables au Fils de Dieu. Face à des perspectives aussi grandioses, le texte de l'Évangile proclamé aujourd'hui évoque une réalité plus rude et commune à tous les temps et à tous les lieux, celle des personnes en grande souffrance. L'Évangile des Béatitudes parle des pauvres de cœur, des doux, de ceux qui pleurent, de ceux qui ont faim et soif de la justice, des miséricordieux, des cœurs purs, des artisans de paix, de ceux qui sont persécutés pour la justice, de ceux qui sont insultés, calomniés et persécutés pour leur attachement à Jésus. Tous se trouvent plongés dans les épreuves, et cependant, Jésus les déclare bienheureux. Les béatitudes semblent dévoiler à nos yeux l'itinéraire que les disciples de Jésus sont appelés à suivre. Mais comme ce chemin paraît au-delà de nos forces humaines, les béatitudes seraient-elles réservées aux seuls saints? Lorsque nous fêtons les saints, prétendrons-nous qu'ils ont vécu toutes les béatitudes? Et qui peut prétendre vivre l'ensemble des béatitudes? Si nous y pensons bien, nous pouvons reconnaître qu'une seule personne a vécu pleinement chacune des béatitudes, et cette personne, c'est Jésus lui-même. Lorsque nous entendons proclamer le texte des béatitudes, sachons reconnaître, comme en filigrane, l'itinéraire suivi par Jésus. Les béatitudes n'énoncent pas des préceptes moraux. Les béatitudes n'invitent pas à considérer des souffrances comme des événements heureux. Les souffrances demeurent des mots. Les béatitudes nous appellent plutôt à suivre la manière de faire de ce Jésus qui, comme un serviteur souffrant, porte à tous la bonne nouvelle du règne de Dieu qui vient. Nos existences en sont transformées. Telle est la voie que les saints et bienheureux ont empruntée et qu'ils nous montrent. En ce jour de la Toussaint, nous célébrons donc tous ceux et celles qui nous ont précédés dans cette aventure à la suite du Christ. Tous ont, d'une manière ou d'une autre, été exemplaires dans la manière dont ils ont accepté que le Christ bouleverse leur existence. Ils se sont laissés prendre par celui qui a enseigné les béatitudes à ses disciples et qui a lui-même donné chair à ces béatitudes. Ces saints et bienheureux, ils sont morts, et nous, nous sommes vivants. Ils sont pour nous comme autant de grands frères et de grandes sœurs dont nous pouvons nous sentir proches. Nous pouvons leur demander de prier pour nous le Seigneur qu'ils ont aimé et servi. Comme nous, ils sont pécheurs, mais ils ont su accueillir la miséricorde de Dieu dans leur quotidien, et ils ont accepté que cette expérience renouvelle radicalement leur manière de voir le monde et de s'engager dans leur vie. En ce jour, réjouissons-nous donc pour les multiples manières dont le Seigneur travaille nos vies, tant celles des saints et saintes à qui nous demandons de prier pour nous, que les vies de chacun d'entre nous. Comme les saints, laissons le Seigneur bouleverser nos cœurs.
Le Père jésuite Bahati continue de nous présenter le document final de l'Assemblée spéciale du Synode et des évêques pour l'Amazonie.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous continuons la présentation du dernier point du chapitre 4 du document final du Synode sur l'Amazonie. Ce point est intitulé des nouvelles pistes pour une promotion écologique intégrale. Le document commence par un questionnement prophétique et message d'espérance à toute l'Église et au monde entier, car selon les participants au synode, la défense de la vie de l'Amazonie et de ce peuple exige une profonde conversion personnelle, sociale et structurelle. L'Église est incluse dans cet appel à désapprendre, à apprendre et à réapprendre afin de surmonter toute tendance vers des modèles colonisateurs qui ont causé du tort dans le passé. Les participants au synode proposent de définir le péché écologique comme une action ou une omission contre Dieu, contre le prochain, la communauté et l'environnement. Ils proposent également de créer des ministères spéciaux dédié aux soins de la maison commune et à la promotion de l'écologie intégrale au niveau paroissial et dans chaque juridiction ecclésiale qui ont pour fonction, entre autres, les soins du territoire et des eaux, ainsi que la promotion de l'encyclique Laudato Si. Assumer le programme pastoral, éducatif et de plaidoyer de l'encyclique Laudato Si au chapitre 5 et 6 à tous les niveaux et structures de l'Église. Afin de réparer la dette écologique que les pays ont envers l'Amazonie, Les participants au synode proposent la création d'un fonds mondial pour couvrir une partie des dépenses des communautés présentes en Amazonie qui promeuvent un développement intégral et durable et les protègent ainsi du désir prédateur des entreprises nationales et multinationales d'extraire leurs ressources naturelles. Les participants au synode sur l'Amazonie proposent enfin de créer un observatoire socio-environnemental pastoral, renforçant la lutte pour la défense de la vie, effectuer un diagnostic du territoire et de ses conflits socio-environnementaux dans chaque église locale et régionale afin de promouvoir, prendre position, prendre des décisions et défendre les droits des plus vulnérables. Les participants au synode terminent ces points en ces termes. Nous demandons également qu'au dicastère du service du développement humain intégral soit créé un bureau amazonien en relation avec cet observatoire et les autres institutions amazoniennes locales.
Invité du jour.
Notre invité du jour est Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar au Sénégal. Dans cet entretien qu'il nous a accordé sur la récente encyclique du Saint-Père, Fratelli Tutti, Monseigneur Ndiaye estime que cette encyclique traduit les valeurs de la petitesse, de la simplicité et de la fraternité que ne cesse de prôner le pape François. Suivez.
À vrai dire, je ne suis pas surpris que le pape nous invite à la fraternité. Il nous avait déjà donné un signal lors de son élection en choisissant le nom de François, François d'Assise. Ensuite, il a signé un document conjoint avec l'imam d'Al-Azhar sur la fraternité humaine. On voit bien d'ailleurs qu'il se réfère au début de cette belle encyclique à la visite de Saint François d'Assise au sultan d'Égypte. Bref, disons que quand on cerne bien cette personnalité du pape, on n'est pas étonné du tout. On se dit qu'il est vraiment dans la trajectoire du choix qu'il a fait, de la petitesse, de la simplicité, puis de la fraternité. Et Saint François d'Assise est, de ce point de vue-là, un modèle extraordinaire pour nous. Donc on salue cet événement. Je lisais dans un quotidien du Sénégal, ici à Dakar, la réponse d'un musulman qui s'appelle Bakary Samb, et qui parlait d'une réponse africaine et musulmane à l'encyclique du pape François qui invite à une fraternité sans frontières. C'est pour dire que l'écho même qu'un tel document peut rencontrer dans des communautés comme les nôtres où nous sommes une minorité chrétienne en terre musulmane, cela est important aussi. Donc je salue vraiment l'événement de cette encyclique.
Dans cette encyclique, justement, le pape donne une place prépondérante au dialogue et à l'amitié sociale. Et vous venez déjà de souligner d'une manière ou d'une autre. Mais cet aspect, c'est très important pour votre pays, le Sénégal, par exemple, où vous êtes obligé de dialoguer avec le musulman.
Vraiment, ça vient donner du baume au cœur d'avoir su d'abord qu'il y a eu ce document co-signé par le pape et l'imam de Lazare. Et puis cela vient confirmer encore l'assise de notre dialogue interreligieux au Sénégal. Donc de ce point de vue-là aussi, l'impact de cette encyclique pour nous est important. J'avoue malgré tout que je me serais attendu quand même à un développement sur la fraternité chrétienne, mais puisque le pape veut ratisser large, il n'a pas voulu rentrer trop dans les particularités, même si la clé de son encyclique demeure la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain qui déborde la frontière de la race, de l'ethnie et même du mépris social pour aller au secours de quelqu'un qui est dans une situation de nécessité. Et c'est à cela que le pape nous invite, à avoir un regard sur le besoin de mon frère, de ma sœur, parce que nous sommes frères et sœurs en humanité. Ou comme disait même un évêque que j'ai connu autrefois en France, qui disait « nous sommes compagnons d'humanité ». Mais vraiment, frères et sœurs en humanité, ça me paraît important. J'étais aussi très heureux de voir que cette icône du bon samaritain avait déjà inspiré au pape Benoît XVI sa belle encyclique de Jus Caritas Est. Et on retrouve finalement le chemin de Dieu qui passe par le chemin de l'autre, le chemin du frère que je dois aimer. Cela dit, j'aurais attendu quelques propos quand même sur la fraternité chrétienne, sur le Christ qui est l'aîné d'une multitude de frères, sur le fait que le Christ dit « vous êtes tous frères, etc. Mais bon, le fait d'avoir voulu avoir un spectre plus large a fait que le pape n'est pas trop rentré dans la spécificité chrétienne. Et donc son encyclique est de ce point de vue la plus universelle, plus ouverte, avec une grande attention sociale aux situations. Je salue aussi cela avec beaucoup d'intérêt. C'est une encyclique qui nous fera beaucoup de bien.
Beaucoup de bien dans ce que vous venez de souligner comme icône des bons samaritains et aussi, je crois, l'esprit de tolérance. Surtout quand on doit dialoguer avec l'autre, il faut être tolérant.
Le mot tolérance, il est un peu passé de mode parce que dans notre jargon ici, local en tout cas, on n'aime pas le mot tolérance. C'est comme si c'est faute d'autre chose que je tolère que l'autre soit autre. Non, on ne tolère pas. On accepte et on accueille l'autre dans sa différence parce que c'est ça qui fait notre richesse. Donc, le pape nous invite vraiment à l'accueil fraternel. Il y a un mot que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est le mot Philadelphia qui dit l'amour fraternel. Cet amour fraternel vient de ce que nous avons la même origine. Nous descendons tous du même Créateur qui nous a fait frères et sœurs en humanité. Et pour cela donc, on fait plus que se tolérer. On s'accueille mutuellement dans l'estime, la réciprocité et l'entraide, dans l'amour en somme.
Puisque nous sommes évidemment tous frères, un petit mot de la fin, Monseigneur.
Alors vraiment, je salue la publication de cette encyclique. Je remercie beaucoup le pape qui nous offre encore là un texte prophétique qui a toute sa valeur aujourd'hui dans un contexte de pandémie, qui a montré notre fragilité, notre vulnérabilité et qui dit d'autant plus la nécessité d'être solidaire. On ne se sauvera pas tout seul, on est dans le même bateau comme il dit, et donc ce qui arrive dans cette navigation arrive à tout le monde. Il faut donc plus avoir raison de nous entraider.
Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar au Sénégal.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.